honnêtement, surtout à l'époque, c'était pas une envie d'être entrepreneuse, mais une incapacité à me voir travailler à temps plein 35 heures semaine dans un bureau.
Mm-hmm.
C'est arrivé ponctuellement que j'aille à faire des semaines de 35 heures, par exemple, quand je devais faire des remplacements l'hiver aux devoirs ou quand je travaillais il y a longtemps au gouvernement fédéral, quand j'étais encore en région pour un emploi d'été.
Mm-hmm.
Chaque fois, ça me mettait à terre. J'avais
Ah ouais.
aucune énergie, j'avais pas vraiment d'intérêt pour la vie de bureau. Je trouvais que ça allait trop lentement, puis de plusieurs façons, je sentais que même si j'avais le genre de diplôme pour devenir, par exemple, enseignante de cégep ou d'université, je sentais que je serais juste pas fonctionnelle, mm-hmm, physiquement.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut, salut! Comment ça va aujourd'hui? J'espère, comme d'habitude, que tu vas bien. J'espère que ça va toujours bien. Même si c'est un petit peu impossible que ça aille toujours bien. Fait que j'espère que tu te sens comme tu te sens. Bref. Enough avec les petites intros qui veulent rien dire. Aujourd'hui, on va parler avec quelqu'un qui a des similarités avec mon propre parcours. Des similarités que j'ai trouvées intéressantes à adresser parce qu'elle a suivi une toute autre voie que la mienne, bien qu'on soit quand même dans des domaines assez, assez proches. J'ai invité Roxane Nadeau pour nous parler de comment son parcours de littéraire, son parcours d'autrice, parce qu'elle a publié un recueil, elle était beaucoup plus du côté créatif que moi. Moi, j'ai un parcours de littéraire, mais plus analytique. J'ai fait ma maîtrise en littérature comparée, mais pas nécessairement dans le but d'écrire. Et aujourd'hui, Roxane, elle est réviseuse linguistique et gestionnaire de communauté. Et elle a notamment fait le bonheur de la chorégraphe Rodney Désir du spectacle Bout Trail en faisant la stratégie de réseaux sociaux du spectacle. Elle a aussi co-administré la bien-aimée page Horatio, notre héros. Horatio pour Horatio Arruda, naturellement. C'est sûr que j'enregistre ça et on vient juste de sortir du confinement pour le coronavirus. Mais si vous écoutez ça, même si vous êtes en France, Horatio Arruda, c'était notre directeur de la santé publique ici au Québec. Bref, alors, Roxane a prêté main forte à son créateur sur cette super page hyper populaire ici. Et sa vocation, c'est vraiment de participer aux discussions de société en expliquant le rôle des réseaux sociaux là-dedans. Donc, j'ai invité Roxane non seulement parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'elle avait écrit sur mon blog, elle avait été collaboratrice, mais on a toujours des discussions intéressantes sur comment l'évolution des réseaux sociaux dans la société font que on a des nouvelles visions sur le marketing, sur la façon la plus authentique possible de se représenter, mais aussi sur les problématiques peut-être économiques et identitaires que ça peut créer d'exister sur le web. Bref, on a cette espèce de lien autour de tout ce qui est analyse du discours et littérature. Et je voulais l'inviter parce que je pense que souvent, on est plusieurs à être passionnés des arts et des lettres et on sait pas trop où ça va nous mener quand on commence ce genre de poursuite qui est un peu plus proche de la passion que de la stratégie de carrière. Et je trouve que Roxane a une belle histoire pour nous montrer qu'est-ce qu'elle a réussi à faire justement avec avec ce goût-là des lettres, ce goût-là des mots, ce goût-là, cette nécessité-là d'écrire. Donc, dans la première partie de l'entrevue, on va vraiment beaucoup plus parler de son cheminement entrepreneurial, de comment elle en est venue à la gestion des réseaux sociaux via les lettres, via les mots, et comment elle a réussi à créer non seulement sa niche, mais trouver sa place là-dedans, malgré le fait qu'elle avait des études plus spécifiquement dans un domaine beaucoup plus artistique et que et que ses ambitions tournent aussi beaucoup, beaucoup autour de l'art. Donc, je vous laisse avec Roxane pour cette première partie et je vous invite déjà à écouter la suite la semaine prochaine où on va beaucoup plus parler de ses... De son activité artistique, de son activité de poète, en fait, et de comment elle navigue ces deux identités entre être une professionnelle ambitieuse et une artiste, une autrice. Alors, bonne écoute.
Salut Roxane, merci d'avoir accepté l'invitation sur l'ambition au féminin. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un beau début de semaine.
Ben merci beaucoup. Puis oui, la semaine a bien débuté. C'est assez chargé, mais quand on est en entrepreneuriat, c'est un beau problème.
Exactement. Puis comme on a discuté un petit peu, là, tu as beaucoup de projets en réseaux sociaux ces temps-ci, hein?
Ouais, exactement. Au début, je m'étais lancée à temps plein avec une entreprise de correction de texte révision. Et ensuite, j'ai développé le nouveau service des réseaux sociaux, un petit peu guidé par le genre de texte qui passait devant mon bureau de réviseuse.
Uh-huh.
Et finalement, j'ai trouvé que c'est assez complémentaire les deux parce que la correction de texte, c'est des contrats ponctuels. Ça arrive, 1 heure, 2 heures, c'est fini, bye-bye. Uh-huh. Tandis que les réseaux sociaux, ça, c'est vraiment du long terme. Là. C'est des projets sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, les deux ensemble, ça me fait des semaines complètes.
Ouais.
Ça me diversifie un petit peu les tâches.
Cool. Ben là, on est rentré dans le vif du sujet, mais oui. Je voulais qu'avant qu'on commence vraiment à parler de... qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, comment t'en es arrivé là. J'aurais voulu que peut-être que tu te présentes aux auditeurs, mais sans utiliser ton emploi, sans te définir par ta carrière ou ton emploi.
OK. Ça fait du bien un peu de se mettre dans ce mindset-là quand on est en mode entrepreneur. Mon nom, c'est Roxane Nadeau. Je suis née à Rimouski. J'ai vécu là environ 18 ans avant de déménager à Montréal pour étudier en littérature.
Mm-hmm.
J'avais des grosses ambitions artistiques. Mon but, c'était de faire la maîtrise pour devenir une écrivaine. C'était une maîtrise en création littéraire que j'avais remarquée depuis longtemps, longtemps, longtemps. C'est exactement ce que j'ai fait une fois arrivée à Montréal. Fait que j'ai écrit un recueil de poésie que j'ai publié qui s'appelle « Les garçons au vent aux éditions de la Tournure
mm-hmm. ».
J'ai écrit un roman dans le cadre de ma maîtrise. Et là, après ça, ben j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu d'avoir de l'espace puis un terrain pour mon chien. Fait que là, je commence à considérer de retourner peut-être en région, un peu moins loin, à Trois-Rivières.
Wow, OK! Fait que ta vie en ville, t'as pas donné la piqûre nécessairement.
Ben je dirais que ça m'a apporté beaucoup. Et je le garde avec moi, puis j'en suis reconnaissante. Mm. C'est surtout que... je garde en tête des affaires comme la crise du logement, la fermeture d'un tunnel qui va remplir un petit peu la circulation. C'est comme, je vois que la qualité de vie, je pourrais peut-être la trouver ailleurs. Puis avec mon entreprise, ben comme je suis pas attachée nulle part, fait que je me donne cette liberté-là.
Cool. Puis je trouve ça intéressant que tu aies choisi de faire une maîtrise en création littéraire. Puis ça, on pourra peut-être en parler parce que moi, je viens du monde des lettres aussi. Tu sais, j'ai étudié au Cégep Saint-Laurent en lettres, puis après ça, j'ai fait ma maîtrise en littérature comparée. J'ai toujours trouvé ça... je me suis toujours demandé, est-ce qu'on peut vraiment créer sous un contexte académique? Puis toi, dans ta tête, est-ce que c'était comme la voie à faire? Qu'est-ce que ça allait t'apporter, la maîtrise, que tu n'aurais pas pu trouver par toi-même comme écrivaine, mettons?
Ben, de prime abord, je pense qu'il y a plusieurs approches de la création littéraire et de l'art. Et il y en a certaines qui sont probablement incompatibles avec l'université. Moi, ce que je trouvais intéressant dans mon approche, c'est qu'il n'y a pas d'information qui peut m'empêcher de créer puis m'empêcher d'être artiste. Fait que j'avais des approches différentes, un univers différent. On avait des cours de création où on avait l'opinion des dizaines, des vingtaines de personnes autour. Après ça, on avait des cours qu'on découvrait l'histoire au Québec, mais aussi en Amérique du Sud ou dans le monde en général. Fait que d'un côté, je vois tout ce que ça va apporter d'avoir des points de vue différents. Fallait juste que je reste groundée en tant que qui je suis.
Mm-hmm.
Mais d'un autre côté, je comprends aussi que dans un domaine universitaire puis de performance, c'est facile de tomber dans des pièges comme la jalousie, se comparer, se surveiller. Mais ça a été un apprentissage utile aussi d'apprendre à passer par-dessus ça parce qu'on est toujours confronté à ça en art, en entrepreneuriat aussi. Le danger un peu de envier.
Intéressant. En tout cas, ça, peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine, qu'on va parler plus de ton côté poète, écrivaine. Mais en tout cas, je trouve ça fascinant comme discussion. Puis aussi, venant du monde des lettres, j'ai l'impression que, puis là, tu l'as dit que tu avais des ambitions littéraires, mais j'ai l'impression que l'ambition, c'est des fois difficile à vivre parce que on nous prépare vraiment à la précarité. Puis, tu sais, je sais pas, moi, j'ai toujours eu l'idée de l'artiste crève-faim écrivain qui vit dans son sous-sol à Hochelaga ou je sais pas quoi, puis qui se voue à une vie de passion. Puis toi, quand tu avais tes ambitions littéraires, est-ce que ça venait... Tu sais, comment tu définis ça en rétrospective? Ou, tu sais, est-ce que tu as encore ces ambitions-là?
Je dirais que ça a été un apprentissage un peu malheureux à faire parce que pour moi, la lecture puis l'écriture, c'était une façon de vivre l'art puis de créer qui était très peu coûteuse.
Mm-hmm.
Et dans notre famille, on n'avait pas énormément d'argent à localiser à l'art puis au loisir. Donc ça, c'était parfait. Mais après ça, quand je vois le monde littéraire, j'ai l'impression qu'il n'y avait tellement pas d'argent à faire avec les publications de livres, même si c'était populaire, que faut soit avoir un revenu d'appoint ailleurs, avoir... une grosse somme de côté qui vient d'un héritage familial. C'est un petit peu dur de s'en sortir en n'ayant pas vraiment de plan ou de préparation. Ensuite, je vois aussi que les choses changent, mais les choses n'avaient pas changé à l'époque de mes études. En ce moment, il y a eu un manifeste qui a été écrit par plusieurs auteurs par rapport au changement des conditions de vie des écrivains. Parce que nous autres, contrairement, par exemple, à l'Union des artistes qui s'occupe surtout des acteurs, nous autres, on n'a pas vraiment de force syndicale, on n'est pas considéré comme un métier, ce qui fait en sorte qu'on participe à des projets communautaires, des projets avec la ville, qu'on publie dans des revues, qu'on publie des livres. C'est très peu surveillé combien d'argent nous revient. Fait que la précarité, c'est pas juste un mythe romantique un peu. C'est une réalité difficile du milieu de la publication qui reste un peu trop longtemps avec... avec la psychologie, un petit peu de passion, j'ai l'impression, mais aussi, il y a un gros côté de privilège là-dedans, parce que l'art a souvent été l'apanage de l'élite, puis c'est pas pour rien que ça s'est maintenu encore, c'est des traces de ça qu'on voit.
Non, c'est intéressant. Fait qu'est-ce que tu te considères quand même comme quelqu'un d'ambitieux dans la vie?
Oui, je me considère comme ambitieuse, mais maintenant, j'ai inclus à mes projets ambitieux de travailler sur moi, de miser sur moi, de me mettre de l'avant. Fait que c'est pas de sacrifier mon bien-être, puis sacrifier ma santé, puis sacrifier mon confort, puis la vie de mon partenaire pour réussir en art ou réussir ailleurs.
Je comprends.
C'est un gros projet de moi aussi en tant que Roxane Nadeau.
Oui, non, je comprends. Puis est-ce que c'est un petit peu par là que ton saut dans l'entrepreneuriat s'est déroulé? Tu sais, parle-nous un peu de ton parcours après tes études. Tu sais, bon, là, tu as ta maîtrise, tu as publié. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Mon parcours d'entrepreneuriat a commencé pendant mes études. J'ai eu mon certificat en révision pendant le bac.
OK.
Fait que j'avais déjà commencé à faire de la révision. Mes premiers clients, c'était... des étudiantes et étudiantes du doctorat qui avaient leur thèse à faire corriger. Fait que ça a été mes premiers contrats. Après ça, ça a grandi un peu pour que je m'occupe parfois de des communications ou articles scientifiques faits par des professeurs.
Mm-hmm.
Et à cette époque-là, j'étais à la maîtrise et je travaillais à temps partiel au devoir, au contact client. Et je dirais que le saut vraiment en entrepreneuriat en tant que tel, parce que je travaillais à temps partiel, j'étais salariée, mais je ne savais pas encore exactement c'est où que j'allais placer mes ambitions, justement. Ça s'est fait quand j'étais à la maîtrise, que j'ai fini ma maîtrise, puis que là, je travaillais à temps partiel. Je suis dans une situation bizarre où je faisais pas assez d'heures au devoir pour appeler ça une carrière, selon moi, mais je faisais trop d'heures pour pouvoir vraiment investir mon entreprise de correction de texte.
Intéressant.
C'est dans une situation un peu comme inconfortable. Puis ma planche de salut, ça a vraiment été la mesure de cession de travail autonome d'Emploi Québec. C'est avec ça que là, j'ai pu avoir de l'argent chaque semaine pour pouvoir me lancer en entreprise à temps plein. Puis avec mes cours et mes connaissances, c'est là que j'ai vu que pour une vision plus professionnelle puis pour respecter mes buts, j'étais mieux de développer un autre service en réseaux sociaux. Ça, c'était mon parcours. Là, pour les réseaux sociaux, j'ai subi un programme d'études aussi. Mais pour le parcours en large, c'est pas mal ça.
Puis l'entrepreneuriat, est-ce que c'était quelque chose que tu avais c'est que tu disais que quand tu étais jeune, tu allais vouloir travailler à ton compte ou c'est vraiment juste venu comme, tu sais, de fil en aiguille par rapport à ce que tu considérais être ton expertise? T'sais, est-ce que tu aurais aimé ça, avoir une job temps plein dans une, je sais pas moi, chez un éditeur, là, mettons?
Honnêtement, surtout à l'époque, c'était pas une envie d'être entrepreneuse, mais une incapacité à me voir travailler à temps plein 35 heures semaine dans un bureau.
Mm-hmm.
C'est arrivé ponctuellement que j'aille à faire des semaines de 35 heures, par exemple, quand je devais faire des remplacements l'hiver au devoir ou quand je travaillais il y a longtemps au gouvernement fédéral, quand j'étais encore en région pour un emploi d'été.
Mm-hmm.
Chaque fois, ça me mettait à terre. J'avais aucune énergie, j'avais pas vraiment d'intérêt pour la vie de bureau. Je trouvais que ça allait trop lentement, puis de plusieurs façons, je sentais que même si j'avais le genre de diplôme pour devenir, par exemple, enseignante de cégep ou d'université, je sentais que je serais juste pas fonctionnelle, mm-hmm, physiquement.
Mm-hmm.
Là, c'est sûr qu'avec la chance de faire mon entreprise puis de faire un horaire à mon goût, j'ai appris à plus travailler sur moi, à plus connaître mes forces, mes faiblesses, puis je pense que j'aurais peut-être un peu plus d'endurance dans un milieu du travail, mais ça reste... Maintenant, je connais les avantages de l'entrepreneuriat, puis au lieu de juste pas vouloir être salarié 35 heures semaine, je veux être entrepreneuse.
Cool, intéressant. Puis, bon, tu l'as nommé, puis on en a parlé un petit peu, mais tu as récemment ajouté la nouvelle corde des réseaux sociaux à ton arc, puis ça semble quand même super bien se passer, ça semble avoir découlé vraiment rapidement. Comment tu vois ce saut-là entre comme le fait que tu étais réviseuse, puis... le fait que maintenant tu crées du contenu digital, tu sais, est-ce que pour toi c'est la suite logique?
Je pensais que ça serait une suite logique plutôt graduelle, mais le virage a vraiment été fulgurant parce que je faisais la correction de texte, puis ça arrivait des fois qu'on me confiait des mandats qui concernaient des tweets ou des statuts Facebook ou mm-hmm, des articles de blog optimisés SEO. Fait que j'avais un petit peu de connaissances parce que moi-même, je faisais de la promotion numérique de mon entreprise en essayant d'avoir des connaissances à gauche et à droite. Fait que j'avais ce genre de contenu-là, puis je sentais qu'il y avait une grande demande du côté de la rédaction numérique.
Mm-hmm.
Je ne savais pas exactement quel genre de forme ça allait prendre. Ensuite, il y a une de mes amies qui s'appelle Nelly Brière, mm, qui a créé justement le programme cours en réseaux sociaux de l'INIS,
mm-hmm,
et qui est enseignante dans ce programme-là aussi. Elle m'en a parlé. Puis je me suis dit que ça serait intéressant. Ce que j'avais l'impression, c'est que la révision, j'avais atteint comme un plateau où même si tout le monde a besoin de révision un peu, il n'y a personne qui est prêt à investir des gros montants là-dedans. Mm-hmm. Puis même si je fais de la formation continue pour me garder à la pointe de la révision grammaticale, puis me garder comme garder mes connaissances fraîches, ça allait vraiment pas être une valeur ajoutée qu'elle allait être directement monétisable.
Mm-hmm.
Fait que je voyais un petit peu qu'il y avait peut-être un mur qui s'en venait. Il y a quand même des réviseuses qui font carrière là-dedans, mais je prenais aussi en compte que moi, travailler par exemple 4-5 heures de temps en révision chaque jour, ça m'épuisait un peu, fait que j'essaie de voir un peu c'est quoi qui marcherait pour moi.
Mm.
Puis les réseaux sociaux, j'ai comme eu l'instinct que ça marcherait. Après ça, j'ai suivi le programme. J'étais vraiment sur mon X. J'étais très stimulée. Je posais beaucoup de questions. Je participais, je m'appropriais les connaissances. Je demandais du feedback aux professeurs. Là, je pense qu'ils ont pu comprendre un peu que je prenais ça au sérieux.
Mm-hmm.
Grâce à ça, j'ai eu des références de la part de des professeurs pour avoir mes premiers contrats. Après ça, des gens qui étaient connexes au projet m'ont donné des contrats aussi, puis de bouche à oreille, ça l'a vite déballé.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même cool, tu fais les réseaux sociaux de la Place des Arts. C'est quand même un mandat assez
nice.
Ce que
je fais, c'est les stories quand il y a certains événements de la Place des Arts.
OK.
Puis on est comme un trio de 3 gestionnaires de communauté.
Ouais.
Celle qui fait le compte de la Place des Arts, c'est Marika, que tu veux justement recevoir à ton événement.
Oui, oui. Qui aura été passée lors de cette entrevue de podcast. Mm-hmm. Mais oui, Marika est très intéressante aussi. Puis ça me mène à me poser la question aussi, parce que bon, j'ai l'impression aussi que quand on étudie en lettres, on a ces idées qu'on a peut-être, je sais pas moi, t'as la voix du professorat, t'as la voix de la révision linguistique, puis t'as un petit peu la voix des médias. Pour toi, puis j'ai l'impression aussi que c'est trois mondes qui sont quand même très peu réglementés. Ben, c'est pas une impression, c'est la réalité, je pense. Puis remplis de personnes qui veulent percer dans le sens... tu sais, je vois beaucoup de gens qui vont faire de la révision de texte sans avoir étudié là-dedans ou sans avoir vraiment une pratique, qui vont juste faire comme, mais je suis bonne en français, fait que je peux justement me lancer là-dedans, puis tu sais, je vais te corriger un texte. Puis pour avoir fait affaire avec des gens qui n'étaient pas des réviseurs professionnels, puis moi, bon, je viens du monde des lettres, fait que c'est, je suis très exigeante, mettons.
Mm-hmm.
Tu sais, j'ai de la misère à comprendre comment tu peux, dans le fond, offrir des services alors que t'es pas aussi légitime que tu devrais l'être, entre guillemets. Fait que, comment toi, t'as réussi à te démarquer dans ce monde-là qui est comme peu réglementé et où il y a beaucoup de compétition de gens qui sont un peu, qui viennent d'un peu n'importe quel background, puis c'est un peu le Far West, dans le fond, là.
Mm-hmm. Pour ce qui est de la révision, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement des mauvaises intentions que certaines personnes qui n'ont pas nécessairement la formation requise se lancent là-dedans. C'est surtout que le monde de la révision est très connexe à celui, par exemple, des études littéraires.
Mm-hmm.
C'est un univers qui ne nous forme pas et qui ne nous prépare pas au marché de l'emploi.
Très vrai.
Fait que les gens ont peut-être pas connaissance que d'avoir étudié en littérature, ça donne la capacité nécessaire après ça à faire du service à la clientèle, à faire des devis, à fixer son tarif, à faire de l'auto-révision, à faire de l'évaluation avec une personne extérieure quand c'est pertinent, puis quand on débute, de faire du mentorat. Je pense que les gens sont juste tellement pas équipés pour connaître ces termes-là puis ces mm-hmm. concepts-là qu'ils se lancent un petit peu en entrepreneuriat et que là, ben, j'imagine qu'ils finissent par se rendre compte que il aurait peut-être fallu un petit plus à quelque part.
Mm-hmm.
Fait que moi, de mon côté, comment j'ai pu me démarquer en révision? Je dirais que j'ai fait un peu comme n'importe qui se lance entrepreneuriat, que j'étais à tâtons au début, j'ai fait des erreurs de débutant, puis j'ai essayé d'apprendre, puis j'avais vraiment comme but de me professionnaliser.
Mm-hmm.
Fait que, par exemple, au début, je travaillais pour des étudiants-étudiantes, puis étonnamment, la qualité du français puis les exigences du français, même si dans un contexte universitaire, c'est pas nécessairement la fine pointe de la fine pointe.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que on révise, mais par exemple, j'aurais des connaissances syntaxiques que je prendrais plus de risques dans mes révisions, que je ferais des jugements plus coupés au couteau.
Mm.
À l'époque, c'était pas comme ça, puis j'ai quand même réussi à m'en débrouiller, mais je travaillais peut-être moins que le salaire minimum. Là, il me manquait des bouts. C'est vraiment quand je voyais que le salariat, ça serait pas pour moi, que là, j'ai fini par me dire je suis mieux de prendre ça au sérieux, parce que sinon, je vais me ramasser avec des problèmes.
Mm-hmm.
C'est exactement pour ça aussi que j'ai été chercher tout de suite un programme en réseaux sociaux, parce que je voulais m'éviter un petit peu cette espèce d'apprentissage-là que j'avais fait avec un certificat en révision, de commencer à travailler avec les clients puis d'apprendre sur le tas, puis de devoir défendre sa crédibilité. Je me suis dit mm-hmm. qu'avec les réseaux sociaux, si j'ai une formation qui a déjà été préparée par des personnes fiables, ça va être un peu moins un combat de tous les jours de paraître crédible, puis ça va être aussi plus sécurisant pour moi.
Mm-hmm. Ouais, puis je pense que c'est, en tout cas, il y a des gens qui sont des autodidactes, puis je pense que t'en es quand même une, là, j'imagine, parce que si tu œuvres dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre par toi-même, mais veux pas cette puis là on parle de crédibilité et de légitimité, mais le fait que t'aies été entouré de gens qui sont dans le milieu depuis plus longtemps que toi, qui te montrent des façons de faire, mm-hmm. ça a quand même, ça vaut son pesant d'or que t'sais, que d'autres gestionnaires de communauté qui vont un petit peu plus au feeling ou à l'intuition n'auraient pas nécessairement.
Puis du côté de la révision, surtout, ça a été un bel exemple de solidarité, parce qu'on ne se voit pas les unes les autres comme des compétitrices. De toute façon, ce n'est pas des industries qui sont typiquement « scalable » qu'on dit, là, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on va transformer ça en entreprise de plusieurs millions de dollars.
Fait mm.
On est là ensemble, on se soutient, on se passe nos contrats quand on a trop de travail. On se pose des questions les unes les autres sur des cas de figure qui sont compliqués. Sinon aussi, on se pose des questions sur le fait d'avoir une entreprise en révision. Est-ce que nos salaires se comparent ensemble? Est-ce qu'on sous-charge? Est-ce qu'on surcharge? Comment deal avec les problèmes de service à la clientèle? Mm.
Cool.
Moi, je pense que c'est vraiment, c'est priceless un peu. Là, ça n'a pas de prix, la solidarité qu'il peut avoir dans les groupes Facebook privés.
Super. De révision particulièrement.
De révision. Pour les réseaux sociaux aussi, il y en a. Puis j'ai retrouvé ça un peu, la solidarité.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des gens? Bon, là, mettons qu'on parle de réseaux sociaux. Des conseils à donner que... Tu sais, parce que vu que toi, ça a déboulé rapidement, puis tu alloues ça pas mal à la formation que tu as suivie. Est-ce que c'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un aussi qui veut se lancer, de peut-être aller directement faire quelque chose un peu plus professionnel?
Moi, je dirais, aller chercher une formation, c'est un essentiel selon mon éthique de travail.
Mm-hmm.
Mais après ça, si j'avais un conseil à donner, ça serait d'essayer de professionnaliser son image, puis professionnaliser son discours sur son entreprise. Parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider dans vos débuts, à vous donner des contrats. C'est juste que faut faire un peu de travail de notre côté aussi à montrer qu'on est prêt à se professionnaliser, à se prendre au sérieux. Dans le fond, qu'on est digne de confiance.
Ouais, non, c'est ça. Fait que, penses-tu aussi que le fait que tu aies toute la sensibilité d'artiste que tu avais déjà ou que tu as depuis que tu es née, probablement, est-ce que tu penses que ça a son rôle à jouer dans ta façon d'utiliser les réseaux sociaux?
Moi, je dirais que dans la façon d'utiliser les réseaux sociaux, ça donne des petits raccourcis et des petits trucs qui aident. Par exemple, quand on fait de la rédaction de texte, souvent, ça va être de résumer une information plus grande. Fait qu'après ça, couper dans le gras, trouver des formulations punchées, c'est sûr que ça aide d'avoir une formation en littérature. Mais au-delà de ça, je pense que dans l'éthique de travail et les valeurs de travail, ça joue aussi. J'en avais parlé un petit peu sur mon Instagram, puis tu avais réagi aussi, là, mais par exemple, en art, quand on produit une œuvre artistique, il faut penser à l'œuvre en tant que telle, comment elle va faire réagir. Il faut penser à qui on est en tant qu'artiste, puis comment ça influence ce qu'on dit, puis aussi le rôle de l'œuvre dans la société en général.
Mm-hmm.
Pas les réseaux sociaux de la même façon aussi. Souvent, on se limite un petit peu trop à la publication en tant que telle, c'est si elle va faire réagir ou pas. Mais il faut aussi penser à la personne ou l'entreprise qui fait le message, comment ça change le message. Puis ultimement, ça c'est la partie que les gens oublient beaucoup, ça va être quoi l'effet sur la société en général.
Mm.
Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'entreprises qui misent tout le temps à faire réagir, avoir des likes, avoir des commentaires, faire rire. Puis des fois, ça se fait au dépens du service à la clientèle. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à une question d'une personne confuse, un peu impatiente, un peu agressive, pour lui donner l'information qu'il cherche, on va tourner ça à la blague un peu. Et on va transformer la conversation en spectacle pour que les spectateurs trouvent ça intéressant. Moi, je trouve qu'il y a des conséquences sur sur ce que ça donne à la société en général, de juste sélectionner un petit peu à qui on va offrir son aide. C'est le genre de critique qui a été émise par Nelly Brière, justement, en premier, par rapport à des comptes comme celui de la SQ, qui était un petit peu agressive et moqueuse avec des gens qui semblaient en état de crise ou juste un peu déconnectés par rapport à la façon de parler sur Facebook, puis qui voulaient juste avoir de l'aide par rapport à des problèmes légaux.
Ouais, cette espèce de sensibilité aux différentes strates, j'allais dire, de la société. Puis c'est quelque chose aussi dont tu avais parlé dans un de tes articles. Puis bon, c'était beaucoup plus en lien à la révision ou à la façon de corriger les gens par rapport à leur orthographe sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ça s'inclut aussi dans cette discussion-là où est-ce que il y a quand même un souci de savoir est-ce que tu vas être un compte inclusif dans la façon que tu vas soit adresser les gens ou présenter ta marque ou utiliser le français ou des choses comme ça. Mm-hmm. Puis on dirait que ça ramasse un peu toutes tes expertises dans un sens de se demander est-ce que justement l'impact que tu laisses dans la société représente vraiment les valeurs que ton entreprise.
Exactement. C'est un peu le jeu de se dire au-delà du besoin de la page Facebook, puis des statistiques de la page Facebook, c'est de se donner un rôle social.
Mm-hmm.
Je pense que ça ressemble beaucoup à la pratique artistique. Après ça, c'est dans mes interactions avec les gens. Est-ce que je vais les disqualifier puis les déclasser socialement en me moquant d'eux? Ou est-ce que je vais essayer, même si c'est moins spectaculaire puis que c'est moins populaire, d'essayer d'arriver au bout de la discussion puis que je les élève un peu?
Mm-hmm.
Que je leur donne de la crédibilité, que je réussisse à les calmer, que je réussisse à créer quelque chose avec la discussion.
Puis, juste pour en revenir à ta job au devoir, parce que quand même, t'étais aussi un frontline, t'étais la première, un des premiers contacts que les gens avaient avec la publication, si on peut le dire de même, vu que tu travaillais au service à la clientèle. Fait que cette volonté, dans le fond, d'être dans la tranchée, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu transportes un peu partout dans ta vie, hein, que c'est quelque chose qui te motive dans tes activités?
Mm-hmm. Pour être honnête, quand je faisais la révision linguistique, je le transportais pas.
Mm-hmm.
Quand j'ai trouvé les réseaux sociaux, j'ai retrouvé ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant ça. Ça me remet un petit peu dans la game de travailler avec des humains, dans le fond, pas juste avec des mots ou des concepts.
C'est intéressant parce que ça va nous mener à une discussion intéressante, je pense, quand on va parler de ta poésie. Puis ce qu'on va faire la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine, puis où est-ce qu'on va parler un peu plus de ton art, puis du côté perso, de comment tu t'impliques justement dans la société via l'art, justement. Fait que, pour le moment, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé tous ces conseils et ces réflexions autour de ton parcours professionnel. C'est vraiment intéressant.
Donc, on se retrouve
la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!